La Belle Verte.
La Belle Verte.
Pour une transition écologique, solidaire et équitable, mettons-nous en action.
Mettons-nous en action. Il n'y a pas de secret. Pour diminuer notre empreinte carbone, il faut diminuer notre consommation. On entend beaucoup parler de diminuer notre consommation de chauffage, d'essence, de viande. Mais en fait, ça marche pour n'importe quelle consommation. Toute nourriture que nous mangeons laisse une empreinte environnementale et éthique mondiale. Aujourd'hui, j'attaque un point sensible, diminuer notre consommation de chocolat.
L'action verte. Diminuons notre empreinte carbone.
Diminuons notre empreinte carbone. Connaissez-vous l'empreinte carbone du chocolat? 4 Français sur 5 mangeraient du chocolat chaque semaine. C'est dire comme le cacao à la cote dans l'Hexagone. Cet aliment, à l'origine réservé à l'élite, s'est largement démocratisé au fil des siècles. Et rares sont aujourd'hui les goûters, les petits déjeuners, les bonbons et autres douceurs sucrées qui ne contiennent pas de chocolat. Même si le cours du cacao fluctue d'une année à une autre, une chose est sûre, c'est que la demande en chocolat ne cesse d'augmenter. Cette demande s'explique notamment par le récent engouement de l'aliment par les peuples asiatiques qui commencent à apprécier le cacao, auparavant peu commercialisé dans leur contrée. Cet attrait impose aux producteurs de produire plus vite, d'utiliser des pesticides et de faire fi du réchauffement climatique. Et oui, parce que pour produire plus vite, il suffit de planter les cacaotiers en plein soleil. Cette plante préfère traditionnellement l'ombre, mais il est possible d'en intensifier sa production en le cultivant en plein soleil s'il est fortement irrigué. En gros, on déforeste, on plante et on arrose à fond. Selon l'organisme Nature Conservancy, il faudrait des milliers de litres d'eau pour un morceau de chocolat, plus précisément 17 000 litres par kilo de chocolat. Il faut savoir que selon le bilan carbone de l'ADEME, une plaquette de chocolat de 1 kg émettrait l'équivalent d'environ 5 kg de CO2 par an. Près de la moitié de cette empreinte s'expliquerait par la déforestation. En Côte d'Ivoire, environ 80% de la forêt originelle a disparu. Ainsi, la grande majorité des émissions viendrait de la production du chocolat, de la déforestation, environ 70%, et le reste, 30%, proviendrait de sa transformation, de son emballage et du transport. Et oui, le chocolat ne vient pas de chez nous. Le plus grand producteur de cacao serait la Côte d'Ivoire avec 40% de la production mondiale, suivi par le Ghana, l'Indonésie, le Brésil et l'Équateur. La moitié de la production de cacao mondiale passerait par un géant de l'agroalimentaire avant d'atterrir en Europe ou sur d'autres continents importateurs où le cacao se transforme et se mélange. On peut noter aussi que le réchauffement climatique fragilise la culture du cacao. En raison du réchauffement climatique, les épisodes de sécheresse sont de plus en plus courants dans les pays producteurs de cacao. Cette sécheresse chronique achève de fragiliser les cabosses renfermant les fèves et les expose aux nuisibles et aux maladies. Résultat des courses, les producteurs utilisent de plus en plus de pesticides pour traiter leur culture et éviter la perte financière. La culture du chocolat serait responsable du coup de l'appauvrissement des sols, notamment par l'utilisation du lindane, un pesticide très utilisé sur les plantations de cacaotiers. Allez, un petit mot pour finir de vous démoraliser sur les conditions de travail. Selon l'UNICEF, 300 000 enfants travaillent dans les exploitations de cacao en Afrique de l'Ouest. Bref, le processus de fabrication du chocolat génère une importante production de CO2 et de gaz à effet de serre, une importante consommation d'eau. Il a un impact sur la biodiversité de par la déforestation. Du coup, diminuer notre consommation de chocolat, même un tout petit peu, c'est un acte éco-citoyen.
La Ligue Verte, initiatrice d'action collective.
Et puis, comme pour tout, nous pouvons, là aussi, essayer de consommer mieux. Une étude a par exemple révélé que la production de chocolat blanc était plus consommatrice de CO2 que celle du chocolat noir. Le chocolat au lait se situe au milieu. En effet, le chocolat blanc est en grande partie composé de solides du lait et les vaches produisent d'énormes quantités de méthane, un gaz à effet de serre très puissant. Lorsque d'autres critères environnementaux tels que la contamination par les métaux lourds, la consommation d'eau, la production de déchets radioactifs et l'eutrophisation sont pris en compte, le chocolat noir a toujours une empreinte plus faible que le chocolat blanc, mais cet écart se comble un peu. On peut donc plutôt privilégier le chocolat noir. Par rapport à la déforestation, notre rôle dans la lutte contre les changements d'affection des terres peut se jouer en achetant auprès d'entreprises qui encouragent des systèmes de culture intégrés et l'agroforesterie. Les entreprises du chocolat qui travaillent avec les agriculteurs pour cultiver durablement le cacao en font généralement la publicité sur leur packaging. Aller vers du chocolat commerce équitable, c'est tenter d'améliorer les conditions de travail des agriculteurs. Le chocolat bio répond à une responsabilisation collective, des initiatives louables qui visent à réduire le bilan carbone, à reboiser les forêts ou encore à fabriquer du chocolat sans conservateur, ni lécithine de soja, font partie des objectifs que regroupe le label du chocolat bio AB et EcoCert. Le fait de consommer du chocolat bio annule tous les additifs, il y a beaucoup moins de conséquences. Favoriser les matières premières bio, naturelles et équitables, c'est moins de pollution dans l'air et dans les sols. Pour diminuer les transports, on peut aussi privilégier les chocolats transformés en France, privilégier les artisans chocolatiers qui en plus évitent les suremballages, contrairement aux grandes marques qui font de ces papiers et aluminium une consommation excessive. Voilà qui permettra peut-être de ne pas avoir l'impression de manger un chocolat au goût trop amer. Rencontre justement avec l'un de nos artisans chocolatiers locaux, Guillaume Sardini.
J'ai appris la glace et après je me suis retrouvé à travailler l'hiver dans le chocolat et j'ai adoré cette matière. Il faut toujours créer des nouveautés et être très méticuleux. Voilà, c'est un produit qui est très sensible, très capricieux et voilà, un produit qui est fin à travailler, donc il faut être méticuleux. Je dirais que c'est une façon de s'exprimer, voilà, que ce soit par le gustatif, trouver des accords, que dans le côté décoratif, les petites pièces artistiques, les petits sujets à toutes les saisons. C'est un petit peu un art, hein, notre métier. Donc voilà, une façon de s'exprimer par le chocolat. C'est vrai que le chocolat, on est obligé de se mécaniser un petit peu pour gagner du temps en production. Donc j'ai un gros mixeur en fait pour faire nos pralinés, pour broyer les pralinés, pour broyer les ganaches. On a une machine, un petit peu la machine maîtresse de mon atelier, on appelle ça une enrobeuse. Du coup c'est la machine qui sert à napper les chocolats en quelque sorte. Donc dans le petit bonbon de chocolat il y a une ganache ou un praliné. Et ce petit intérieur, on l'enrobe d'une petite couche de chocolat liquide qui durcit et qui fait la petite coquille de protection et de décor. Et voilà, donc c'est un peu les pièces maîtresses. On a forcément des fours pour faire des macarons, on a un petit peu de matériel, mais voilà, essentiellement c'est ça, c'est l'enrobeuse, on appelle ça, qui sert à enrober le chocolat. Nous avons une boutique à Vals-les-Bains, donc 3 avenue Paul Ribert à Vals-les-Bains, dans le quartier thermal. Et une boutique en centre-ville de Aubenas, 8 boulevard de Vernon, centre-ville d'Aubenas.
La chanson verte.
La chanson verte. When We Gonna Learn, c'est le titre d'une chanson qui a 30 ans. Ne parlez pas de quantité, car il n'y a plus de poissons dans la mer. Des hommes avides ont tué toute vie. Et tu ferais mieux d'écouter la nature, où elle reprendra tout. Oh, tu as bouleversé l'équilibre, fais la seule chose que tu sais faire. Maintenant, ma vie est entre tes mains. Mais quand va-t-on apprendre ? Demande Jamiroquai sur ce titre. C'est l'une des toutes premières chansons sorties par le groupe britannique et elle est sans détour. Le chanteur et auteur J.K. y raconte comment l'homme détruit progressivement l'environnement et la biodiversité avant de faire du profit. Pour sortir du cercle vicieux, il faut réveiller le monde avant qu'il ne s'autodétruise. En 1993, ce que J.K. et sa bande veulent nous dire avec l'album Emergency on Planet Earth est très clair. La situation climatique est urgente et déjà catastrophique. Il essaie de sensibiliser à des questions essentielles de préservation des ressources, de respect des peuples autochtones, de décroissance. Mais à l'époque, si le public adore danser sur ces morceaux, les gens vont se contenter de trouver l'écologie de Jamiroquai divertissante. Personne ne le prend au pied de la lettre. Il est rigolo avec ses grands chapeaux et ses phrases choc. Et 30 ans plus tard, alors qu'on n'a rien fait, qu'il est l'heure de constater que c'est déjà foutu pour nous, on se dit que Jamiroquai avait déjà compris que l'humanité n'était pas assez évoluée pour apprendre de ses erreurs. Circumstances brought us here. Armageddon's come too near. Too, too near now. Foresight is the only key to save our champion's destiny. The consequences are so grave. So, so grave now. The hypocrites, we are their slaves. So, my friends, to stop the end. On each other, we depend. All oh, we depend. On the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy men been killing off the lot the rapper was. And you better play it nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my band, her bad right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands.
L'Ardèche verte,
animaux
de chez nous.
Le retour de la douceur signe le retour de notre petit bourdon des pierres. Si on l'observe généralement d'avril à octobre, avec les dernières douceurs, notre grand pollinisateur a montré le bout de ses fesses orange. C'est l'un des bourdons communs dans notre jardin et l'un des plus faciles à reconnaître, tout noir avec l'extrémité rouge-orangée. Commun dans toute l'Europe, c'est l'une des espèces de bourdons les plus communes. Il aime les terrains dégagés, prairies, jardins, champs, lisières de bois. La femelle apparaît au printemps, elle recherche de la nourriture, puis un site favorable pour construire le nid. Ce sera une infractuosité, une fissure dans un mur, un espace dans un tas de pierres, parfois souterrains comme des terriers de rongeurs ou dans des nichoirs à oiseaux. Ce nid est tapissé de mousse et d'herbes sèches avec une coupe qui sera remplie de pollen. L'ensemble est recouvert d'une enveloppe de cire. Les colonies peuvent abriter entre 300 et 400 individus. La reine hiverne après avoir été fécondée à la fin de l'été. Le bourdon des pierres, c'est un butineur. Il fait partie des grands pollinisateurs, un pollinisateur très actif. Il est là, son grand pouvoir, féconder des milliers de fleurs. Il nous rend un immense service. Pourtant méconnu, il souffre des peurs que nous inspirent les héminoptères. Mais les bourdons sont tranquilles, absolument pas agressifs. Seules les femelles peuvent piquer, mais elles n'attaquent jamais. Pour les attirer au jardin, vous pouvez leur confectionner facilement un petit abri en creusant un trou dans le sol que vous remplirez de paille, puis vous couvrirez d'un pot de fleurs en terre à l'envers pour protéger le trou du pot de fleurs de la pluie. Vous installerez par-dessus une petite planchette surélevée sur quelques pierres permettant le passage des futurs occupants.
Il était une fois la Bible verte.
Aujourd'hui, focus sur C'est qui le plus écolo, un livre-jeu à découvrir dès 6 ans, écrit par Paul Bateau et illustré par Caroline Huet. Paul Bateau est journaliste depuis 2007 pour la presse jeunesse. Elle est spécialisée dans les loisirs créatifs, notamment en travaillant pour le magazine Petite Main en tant que conceptrice et réalisatrice d'activités manuelles. Elle a également collaboré aux magazines Waku, Mixman et Chaudron Magique. Aujourd'hui, elle écrit dans Histoire pour les petits, Toupie, Picotis, Mort de lire et continue à bricoler pour l'édition. Caroline Huet, quant à elle, est diplômée de l'École des arts décoratifs de Strasbourg, section illustration. Elle a participé à la création de motifs textiles pendant plusieurs années avant de revenir à ses premiers amours, l'illustration. Elle travaille aujourd'hui à Lyon, elle a illustré pour la jeunesse chez Bordas, Nathan, Bayard Jeunesse. C'est qui le plus écolo ? C'est un livre jeu, drôle et pertinent. Ou impertinent, pour se questionner sur ces petits et grands efforts écologiques au quotidien de façon ludique et décomplexée. Tu fais ou tu ne fais pas. Piquer une crise pour aller à l'école, en voiture, préférer les mouchoirs en tissu qu'on peut laver, laisser couler l'eau pour rien, cracher ton chewing-gum par terre. Les plus écolos seront ceux qui auront lu ce livre qui met l'accent sur les bons ou mauvais comportements au quotidien. C'est qui le plus écolo est paru aux éditions Milan.
La belle verte pour une transition écologique, solidaire et équitable. Mettons-nous en action.